Je m'appelle Simon, je serai votre animateur pour un 60-65 minutes d'information sur tout ce qui touche de près ou de loin les enjeux migratoires, localement et internationalement. Ça va des enjeux autochtones, environnementaux, jusqu'aux droits de la personne, les mesures liberticides ou discriminatoires, la paranoïa sécuritaire, les frontières. Et on souligne aussi la résistance contre toute cette dystopie qui se met rapidement en place sous nos yeux en direct. On est seulement deux pour cette édition des Apatrides. Mathieu était aujourd'hui dans une grosse manif à Québec dans le cadre de la campagne Le Communautaire à bout. On le salue, lui et ses camarades du milieu communautaire qui non seulement sont épuisés par manque de ressources, de moyens, d'effectifs et de considérations, donc tannés d'être méprisés par pas mal tous les gouvernements successifs depuis quelques décennies. Je suis donc en compagnie de Marie-Ève, qui est à la console actuellement. On va s'échanger les places aujourd'hui. Marie-Ève, tu nous as préparé trois chroniques. Je te laisse nous dire un peu c'est quoi. Non, on le saura. Ce sera une surprise, mais en tout cas, il y aura un peu de local, un peu d'international. Et moi, j'aurai quelques actualités autochtones, des brèves internationales de différents pays dont on parle assez peu. L'habituel agenda antiraciste vers la fin de ce balado et on vous a choisi des nouveautés musicales au style très varié. On commence ça dans un court instant, si on est prêt, avec...
Oh yeah!
Oh yeah! Salut Marie-Ève!
Excusez!
Marie-Ève était seule à la technique, donc on l'excuse. Donc, est-ce qu'on part ça tout de suite ou tu veux nous dire les chroniques dont tu vas nous partager tantôt?
Ben moi, je vais parler un peu du jugement de la Cour suprême là, sur l'accès au CPE pour les personnes, pour les demandeurs d'asile, entre
oui,
autres.
Oui, enfin, jugement qui a été rendu.
Exact. Je vais vous amener en Union européenne aussi parce qu'il y a une nouvelle réforme des politiques migratoires dont je vais vous parler. Puis, quelle autre chose que je vais vous parler?
Palestine, Israël, exact. C'est ça. Quelques actualités, mais plus locales.
Exactement, c'est ça.
Donc, on part ça dans quelques instants avec des actualités autochtones. On commence dans l'Ouest, où on salue le combat de deux membres de la nation Nijga qui saisissent la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre un projet d'infrastructure de gaz naturel liquéfié par la compagnie états-unienne Western LNG, un projet qui comprend un gazoduc, du transport fluvial et un terminal à Prince Rupert, un projet qualifié d'intérêt national par le gouvernement Carney. La poursuite déplore le fait que les installations pourraient rapidement devenir vétustes et dangereuses et que la nation n'a pas été suffisamment consultée. Il y avait d'ailleurs eu des poursuites au niveau fédéral à ce sujet. Il s'agit d'un cas assez particulier, mais loin d'être unique, où les deux individus, Cecil Mercer et Stephen Nice, se placent en porte-à-faux du gouvernement de leur propre nation. On voit ça aussi au Québec, les instances officiellement reconnues par le gouvernement provincial que sont les conseils de bande, dont les décisions sont souvent loin de refléter ce que veulent les populations, disons, civiles des nations autochtones et leurs autorités traditionnelles, les aînés, les gardiens du territoire ou encore les chefs héréditaires. Si je résume, on craint principalement deux choses. Évidemment, les risques de déversement, de contamination et toutes les conséquences que ça entraîne. Et deuxième élément, comme le gouvernement de la nation Nijga s'est engagé comme partenaire financier dans le projet, actuellement évalué à 5 milliards, on craint que ça devienne un gouffre financier qui pourrait avoisiner les 20 milliards de dollars pour une industrie fossile dont la demande est vouée à baisser dans les prochaines années. Donc, dossier à suivre.
On se déplace... 20 milliards quand même, c'est pas du fond de tiroir, là?
Non, j'ai pas lu le contrat qui lie l'entreprise au gouvernement de cette communauté-là, mais probablement qu'il s'agit d'un partenariat d'égal à égal, donc avec
investissement. Responsabilité partagée
c'est,
aussi.
Exactement, c'est ça. Donc, on se déplace un peu plus à l'est dans le futur Free MAGA State of Alberta, dans le Parlement à Edmonton, où se sont rendus en pleine assemblée législative plusieurs chefs et conseillers des Premières Nations pour exiger une motion de censure du gouvernement de Daniel Smith, qu'ils accusent d'encourager le mouvement sécessionniste albertain, ce qui a donné lieu à des images impressionnantes de cette délégation de chefs devant le Parlement albertain. La très éventuelle séparation de l'Alberta viendrait violer une tonne de traités historiques et plusieurs ententes durement acquises par les nations autochtones qui vivent dans ce grand territoire. tout ce débat autour de la séparation de l'Alberta, un peu comme celui autour de la Constitution québécoise, ignore copieusement toute réalité autochtone qui est mentionnée nulle part dans les libellés des pétitions qui circulent actuellement, ni dans les échanges qui ont eu lieu dans les derniers mois, ni dans les médias, ni nulle part finalement. Non. Donc c'est la grande invisibilisation. Il y a l'ancien maire de Calgary, Naïd Nenshi, maintenant député néo-démocrate au Parlement albertain, qui a officiellement déposé la motion demandée par les chefs autochtones. Motion qui a évidemment été rejetée, mais qui a une portée symbolique assez forte et qui est toutefois loin d'émouvoir la plupart des députés conservateurs qui ne se sont pas gênés pour montrer leur désintérêt. Ils baillaient de manière ostentatoire, riaient, textaient, allaient aux toilettes, bref, exprimaient leur mépris de manière
la plus... Oui, c'est ça. C'est plus du mépris, je dirais, que de l'arrogance, effectivement.
Oui, ben écoute, c'est probablement un savant cocktail des deux, là, mais on pourrait au moins, tu sais, être indifférent sans non plus en rajouter une couche, là, mais enfin, bref, ils sont pas capables de s'en empêcher. Les chefs autochtones, de leur côté, sont restés fiers et n'ont pas répondu à ces petites provocations de cours d'école et ont quand même réussi à mettre sur la table leurs préoccupations, mais se faire entendre et respecter va probablement rester toujours un combat. On arrive à Montréal, une statistique record extrêmement triste rapportée par le Centre de jour de résilience Montréal. 32 personnes mortes autour du square Cabot en un an et demi, donc depuis juin 2024. De ces 32 personnes, 26 sont autochtones, donc la presque totalité le sont. C'est presque le double de décès dans ce secteur par rapport aux périodes précédentes. Des morts qu'on considère comme étant évitables si on mettait les moyens pour prendre en charge tout le monde de manière plus complète et sur du plus long terme. On donne l'exemple de personnes trouvées mortes alors qu'elles étaient en attente d'une place en centre de désintoxication ou d'un logement temporaire, qui se retrouvent dans la rue où les probabilités d'être en contact avec du cristal ou du fentanyl sont démultipliées par rapport à si on a un endroit pour superviser ou non ou dormir. Oui, mieux financer le communautaire en général, c'est très d'actualité, cette semaine en particulier. Et évidemment, adopter le principe de Joyce pour faire en sorte que les membres des communautés aient davantage confiance aux services publics de santé. Ou encore assurer des retours en communauté après une aéroportation dans un hôpital de Montréal à partir du Grand Nord. C'est juste quelques exemples, mais on peut définitivement faire beaucoup mieux. En attendant, je vous invite à lire un grand dossier dans Espace autochtone dont le titre est « À Montréal, l'archipel contre les dépendances », qui comprend 4 articles assez denses signés Marie-Laure Josselin. Ça porte sur tout l'écosystème santé communautaire, aide aux populations autochtones vulnérables dans la métropole. C'est garanti, vous allez apprendre plein de choses. C'est un portrait aussi humain que complet, donc lecture fortement recommandée. Et maintenant, on va passer en musique et ensuite, on va changer de continent avec Marie-Ève.
Oui, peut-être juste à ajouter, tu sais, en plus, là, dernièrement, je sais qu'on a vu là, que suite à d'autres décès, là, deux dans un même fin de semaine, là, je pense, la même journée, une même 48
heures. Qui n'étaient pas des personnes autochtones.
Non, mais il y a quand même une enquête du coroner qui a été commandée, genre dans le décès d'au moins 5 personnes. Peut-être ça va s'étendre à plus, je ne sais pas trop si ça va inclure aussi, là, si cette enquête-là va inclure... des personnes issues des communautés autochtones.
Bien, c'est sûr qu'il y aura une portion de l'enquête qui sera sur plus le contexte général. Donc, forcément, oui, ça va sûrement englober ces personnes-là. Puis tu dis 5 personnes. Des fois, les mandats sont élargis en cours d'instruction. Donc, on va en musique.
Oui,
c'est mon premier de 2 choix musicaux. Marie-Ève a aussi choisi 2 pièces. On va entendre une musicienne d'ici qui est déjà quand même bien établie, une artiste chouchou de la scène locale, Révélation Radio-Canada Jazz, des prix Félix, des Junos. C'est la Montréalaise Dominique Fils-Aimé. Elle a lancé son 5e album, My World is the Sun, il y a quelques semaines sur l'étiquette locale Ansel Records, album qui figure à la 22e place du palmarès local de Choc. Une 40aine de dates de spectacles un peu partout, beaucoup en Europe dans les prochains mois. Elle sera au Festival de jazz de Montréal cet été, en plus de quelques autres dates québécoises à l'automne. J'ai choisi la pièce Freedom Become. On écoute Dominique Fils-Aimé aux Apatrides Anonymes. Freedom Become, heal the whole within. Earth is bleeding, air is leaking, pain is feeding the pain. Peace be upon you, every wall will break. Peace upon you, all the ones who ache. May freedom become you. Thank you. Toujours aux Apatrides Anonymes, on retrouve maintenant Marie-Ève. Donc, comme annoncé en introduction, tu nous parles du jugement rendu par la Cour suprême.
Ben oui, ça y est, la Cour a tranché. Donc, le 6 mars dernier, elle a jugé que le fait d'exclure les demandeurs d'asile du régime des garderies subventionnées est discriminatoire envers les femmes. Ironiquement, à 2 jours de la Journée internationale des droits des femmes...
Ben, ça tombe bien, je trouve.
La Cour suprême a dû rappeler que l'accès à des garderies abordables a une incidence directe sur la capacité des femmes à travailler. Grosse surprise!
Et là, c'est terminé. Plus de recours possible.
Non, pas se poser. Ben, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle la clause dérogatoire.
Ah,
donc,
la fameuse clause dérogatoire.
C'est ça. Donc, à cela ne tienne, le jour même de la décision, des membres de la classe politique l'ont remise en question. Notre super Bernard Drainville s'est même dit en tabarnak sur les ondes d'une radio de Québec. Je le cite, « Ça n'a rien à voir avec des familles québécoises qui payent des impôts depuis des années puis qui devraient avoir priorité pour des services. » Dois-je rappeler que l'argument de la préférence nationale, c'est le fondement de l'extrême droite française, c'est le programme du Rassemblement national de Marine Le Pen. Le jupon dépasse, mon Bernard!
Je pense qu'il s'en cache même pas.
Mais au moins, ta vision a le mérite d'être claire, celle d'un Québec à 2 vitesses où le droit à la dignité est conditionnel au statut légal. Drainville et Christine Fréchette, les deux aspirants à remplacer M. Legault, ont tous les deux menacé d'avoir recours, comme je le disais, à la disposition de dérogation pour se soustraire au jugement. Des menaces dénoncées par le collectif Bienvenue, le comité Accès Garderie, mais aussi par des figures politiques. Il y a même Christine Saint-Pierre qui a présenté des excuses puisque elle était députée et ministre du Parti libéral du Québec lorsque son parti a pris la décision de refuser initialement l'accès aux services de garde pour les demandeurs d'asile en 2018. Elle a appelé le gouvernement actuel à se conformer à la décision de la Cour suprême, disant que tenter de la contourner serait, je cite, « un acte d'une grande injustice et d'une grande insensibilité ». Je précise quand même que la juge québécoise Suzanne Côté a exprimé une dissidence lors de la décision de la Cour suprême et s'est rangée du côté de l'argumentaire du gouvernement du Québec en disant ne pas voir de discrimination de nature à violer la Charte canadienne des droits. Une dissidence que l'ancienne députée et ministre du Parti québécois, Louise Arel, juge très inquiétante, rappelant que les mots de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, selon les mots, pardon, de la Charte, tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques. Donc, Louise Arel fait même un parallèle entre cette dissidence-là et les actions de l'AIS aux États-Unis, qui se base notamment sur des notions de non-citoyen et de préférence nationale. Donc, on voit que Mme Arel est une radicale.
Oui, oui, même si je pense qu'elle est encore membre du PQ, mais elle continue quand même d'exprimer certaines choses valides.
Bon, ben je rappelle aussi en terminant que toute cette histoire-là a commencé, comme je le disais, en 2018, quand le gouvernement libéral de Philippe Couillard a réinterprété un article du règlement sur la contribution réduite aux services de garde, ce qui a exclu les demandeurs d'asile des CPE subventionnés, même s'ils détenaient un permis de travail ou résidaient légalement sur le territoire québécois. Ça a eu comme conséquence que du jour au lendemain, des familles en attente d'un statut se sont retrouvées privées d'un accès à un service essentiel, non pas en vertu d'une loi votée par l'Assemblée nationale, mais comme je disais, par un simple changement d'interprétation réglementaire. La CAQ, après ça, bien, qui a pris le pouvoir en octobre 2018, n'a pas jugé bon de corriger cette décision-là. Pire, en juillet 2022, alors que la Cour supérieure venait de déclarer le règlement nul, Québec a choisi d'aller en appel, prolongeant l'attente de familles déjà fragilisées. Et c'est donc cet appel-là que la Cour suprême vient de trancher.
Donc, ben merci Marie-Ève. Comme tu disais, clause dérogatoire possible. On verra ce que le prochain ou la prochaine premier ministre va faire et ensuite le prochain gouvernement. Mais la clause dérogatoire est sous examen, je crois, éventuellement pour usage abusif dans certaines commissions parlementaires à Ottawa. Donc, ce sera aussi... Il y a toutes sortes d'enjeux à vérifier, je pense, dans les prochains mois et même années, là, je te dirais. Donc, on te retrouve encore, Marie-Ève, dans quelques instants, mais on s'en va en Europe.
Yes.
On s'en va en Europe, pas dans un pays en particulier, mais on s'en va plus sur des principes légaux de répartition de migrants, je crois.
Oui, c'est ça. C'est que la semaine passée, le Parlement européen a adopté ce qu'on appelle le règlement retour, qui représente un important durcissement de la politique migratoire de l'Union européenne. Le règlement a donc été approuvé par 389 députés, alors que 206 se sont prononcés contre et 32 se sont abstenus. Les principales mesures de ce règlement retour sont d'abord l'ouverture de hubs de retour dans les pays hors des frontières de l'Union européenne où seraient envoyés les migrants déboutés de l'asile et qui ont reçu une obligation de quitter le territoire.
Comme Albanie, où est-ce qu'on sait déjà les endroits géographiques?
Non, on ne sait pas encore, c'est pas rendu là. Il y a ces expulsions-là vont aussi pouvoir se faire vers des pays tiers sûrs, entre guillemets, avec lesquels la personne n'a parfois aucun lien. Par exemple, un pays qui accepterait d'accueillir la personne sur la base d'un accord conclu avec un État membre de l'Union européenne ou avec l'Union européenne. Ça touche pas les mineurs non accompagnés, mais les familles, oui. Et comme aucun mécanisme de surveillance est prévu, certains considèrent que l'Union européenne externalise sa politique migratoire sans contrôle ni garde-fou. Une autre mesure, c'est l'allongement de la rétention de 18 à 24 mois, même si les départs dits volontaires, en gros guillemets, seront encouragés en premier lieu. Cet allongement-là de la rétention pourrait être, dans certains cas, illimité.
Ah ouais.
Par exemple, pour les personnes migrantes identifiées comme présentant un risque pour la sécurité. Autre mesure, l'enfermement des mineurs non accompagnés et de familles avec enfants en centre de rétention sera autorisé, même si ce placement doit se faire, je cite le texte, en dernier recours et pour la durée la plus courte possible en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. En tout cas, il me semble que ça va pas dans cette phrase-là avec comment ça pourrait être dans l'intérêt de l'enfant.
C'est complètement contradictoire. Mais...
Autre mesure qui va encore dans le sens là, d'un durcissement de la rétention, les personnes migrantes sans papier peuvent être placées en détention, par exemple, s'ils coopèrent pas, s'ils présentent un risque de fuite, si elles constituent un risque pour la sécurité ou pour tout autre motif pertinent empêchant leur éloignement en temps utile. Ça, je vous ai cité tel quel le texte du règlement. Autre mesure, une interdiction d'entrée sur le sol européen de façon permanente. La durée de l'interdiction va dépendre des circonstances de chaque cas et pourra être, comme je le disais, permanente si une personne, encore une fois, est considérée comme représentant un risque pour la sécurité. Et une autre mesure, ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des décisions. Ça veut dire qu'un ordre de quitter le territoire d'un État membre va s'appliquer à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, la principale conséquence, c'est que ça vient beaucoup diminuer les chances de régularisation, puisque même si une personne remplit les critères de régularisation dans un État de l'Union européenne, ben elle pourrait en être expulsée sur la base d'une décision prise dans un autre État membre sans réexamen de sa situation.
C'est ça. Il y a parmi les États européens, il y en a dont les critères sont pas très,
mêmes.
Très arbitraires aussi.
Exact,
parfois,
c'est ça. Les critères sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Fait que là, ben, vous voyez déjà qu'avec ces mesures-là, il y a plusieurs raisons d'être consterné. Et donc, les ONG et associations qui viennent en aide aux personnes migrantes le sont. Dans une déclaration commune diffusée là juste un petit peu avant le vote au Parlement européen, plus de 70 d'entre elles s'inquiètent particulièrement d'un article qui porte, entre autres, sur les perquisitions. Selon les organisations, l'article 23A est tellement vague et large qu'il pourrait englober les refuges gérés par des organisations caritatives, mais aussi les domiciles privés de citoyens soupçonnés d'héberger une personne sans papier. Parce que même si l'article 23 prévoit pas explicitement des opérations de police, il oblige quand même les États à mettre en place ce qu'on appelle des mesures de détection pour identifier les personnes sans papier. D'ailleurs, il y a plusieurs pays de l'Union européenne qui mènent déjà ces opérations de ce genre-là, que ce soit dans les gares ferroviaires ou routières, mais aussi dans les lieux de travail.
C'est des contrôles essentiellement?
Oui, c'est ça. Ben, un exemple. Récemment, à Ravenne, dans le nord-est de l'Italie, la police a mené une opération de fouille dans un hôpital en pleine nuit. Donc, des médecins ont été accusés de protéger des migrants après les avoir déclarés inaptes à être placés en détention pour des raisons de santé. Vous voyez jusqu'où ça peut aller.
Les médecins ont l'obligation de traiter, de soigner les gens.
Oui, mais on est en Italie avec la super Giorgia Meloni. Bref, les organisations craignent que ce règlement-là normalise et renforce ces pratiques-là, mais aussi qu'il incite les services publics à partager des informations avec les autorités chargées de l'immigration, ce qui dissuaderait des migrants sans papier de recourir aux soins de santé, à l'éducation ou encore à l'aide sociale. Je cite Andrea Soler-Eslava, qui est de Médecins du Monde. Les événements récents outre-Atlantique montre à quel point les lois qui visent à repérer, détenir et expulser les personnes en fonction de leur statut migratoire ont un impact réel sur la santé des populations. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques évitent tout simplement de recourir aux services de santé essentiels, même en cas d'urgence et lorsque leur vie est en danger. Fermez les guillemets. Enfin, les ONG mettent en garde sur les conséquences psychologiques. Elles rappellent que toute politique qui augmente le risque de détention et d'expulsion augmente par le fait même la vulnérabilité. Par exemple, les partenaires violents et les employeurs abusifs profitent de cette vulnérabilité-là, sachant bien que il y a peu de risques qu'une personne sans papier les dénonce. Donc, les ONG demandent aux législateurs européens de s'assurer que les personnes qui signalerait des violations à la police et pas à craindre d'être placé en détention. Il y a Michael O'Flaherty, qui est le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Lui, il s'inquiète beaucoup du risque que le règlement soit perçu comme un feu vert aux refoulements qui sont contraires au droit international. Je le cite. « La protection des droits humains n'est pas un obstacle au bon fonctionnement du système migratoire. Elle en est le fondement. »
Ben oui.
Nuance importante quand même. « Nous devons veiller à ce que, dans la recherche d'un cadre commun, nous ne démantelions pas les garanties protégeant les migrants et les demandeurs d'asile. » Fermez les guillemets. Même si la Commission européenne réitère qu'une personne ne peut pas être renvoyée de force sans le risque de non-refoulement, sans que le risque de non-refoulement ait été vérifié, Michael O'Flaherty rappelle que l'extension de la liste des pays dits sûrs augmente le risque que les demandeurs d'asile voient jamais leur situation personnelle et les risques encourus lors de leur retour dans leur pays évalués sur le fond. Enfin, il s'inquiète des risques de détention automatique et arbitraire et rappelle que la détention administrative des personnes migrantes doit être utilisée comme mesure de dernier recours et au cas par cas après un examen attentif et individualisé. Je rappelle en terminant que ces mesures-là avaient été proposées en mars 2025 par la Commission européenne. Puis en décembre dernier, ben là, les ministres de l'Intérieur des États membres avaient comme donner leur feu vert là pour la suite du processus. Et donc là, suite au vote du Parlement là il y a quelques semaines, le règlement va passer à la prochaine étape du processus législatif, c'est-à-dire que les trois institutions de l'Union européenne, la Commission, le Conseil et le Parlement vont commencer des négociations pour mettre au point là, le texte final.
Donc, il y a encore de l'espoir que ce ne soit pas adopté ou pas adopté tel quel. On peut espérer peut-être
exactement,
des recommandations.
Exactement. Les ONG et associations continuent de faire des pressions là, pour puis de mobiliser pour faire pression sur les membres.
Je sais pas si on les invite même à s'exprimer
comme l'équivalent de commission parlementaire, ouais, ça, je sais pas.
Donc, à suivre. Donc, en tout cas, si c'est adopté tel quel, c'est clair que ça va pousser des milliers de personnes dans la clandestinité. Donc.
Exactement.
Donc, ben, merci beaucoup, Marie-Ève. On s'en va en musique avec Alphonse Bisaillon.
Oh, on va danser dans mes souvenirs. Remonter la trajectoire. Assemblage de joie, de violence. J'en suis la suite pathologique. Rouler jusqu'au bout des champs, au bord de la route où naissent des croix blanches, où des amis sont morts en voyage, rater un virage, fait des tonneaux, défoncer, naufrage, on vient toutes de s'inquiète pas, nos vies sont des parkings où on cherche nos clés de char, comme les autres hommes, j'attends la métamorphose, pour aller voir le monde avant que le monde explose, avant que la prophétie en moi s'exauce, j'ai chromé les rimes, percé l'exauce, sorti la peinture à l'aube et j'ai jacké un pick-up en poésie. Jacker un pick-up en poésie, fais un backup avant l'amnésie de toutes mes hantises. Jacker un pick-up en poésie, sortie scolaire à la morgue, les mémoires s'écrivent dans une langue morte. Tunnel, piéton, graffiti obscène, m'obsède, j'ai l'impression que leurs insultes m'observent. Le monde est trop grand, 15 ans, je me recentre sur le dubstep. Sortie scolaire au centre d'achat, les gars magasinent des casquettes. La cour d'école est un carré de pétrole auquel ils ont mis deux paniers de basket. L'or c'est pas une job, c'est une obsession. On m'a appris que recycler sauverait le monde, mais c'était qu'une diversion. Si je meurs, j'écris pour vous donner ma version. Je vis le drame d'une génération. Mes tragédies sont insignifiantes, mais celles qui s'en viennent dépassent la réflexion. Mon passé c'est le dubstep, mon avenir c'est l'extinction. Ok. Pick-up en poésie, un backup avant l'amnésie de toutes mes hantises. Jacker un pick-up en poésie, sortie scolaire à la morgue, les mémoires s'écrivent dans une langue morte. L'école m'apprend la loi du plus fort, en moi l'amour se déforme. Patriarque qu'ils disent, j'ai pas compris le fond mais la forme, faut que je me défende. Mais j'ai des amis sincères. Des amis qui sont des guerriers, qui se relèvent toujours après être tombés. J'ai des amis en fil dans la liquide de la destinée. Et cette question leur est destinée. Pourquoi la violence nous rend fiers? Moi je l'ai vu le jour où ils ont voulu s'en prendre à mon petit frère. La peur de le
perdre m'a fait comprendre que la peur naît parfois de l'amour même. Voyant que ma sensibilité ne servait à rien, pour le défendre j'ai inventé la haine. J'ai fui cette ville pour ce que j'y fais. J'y retourne quand les chants m'appellent comme sirène. Et je rêve de me pardonner d'avoir préféré mes hommes avec du sang leur coulant par le nez. J'avais 15 ans,
claqué un pick-up en poésie.
Fais un backup avant l'amnésie de toutes mes hantises.
Jackie, un pick-up en poésie.
Sortie scolaire à la morgue, les mémoires s'écrivent dans une langue morte. Let's go les filles. L'ado que j'étais, je lui offre une collab. Let's go Alphonse, drop it hard.
Cette deuxième pièce, plutôt déjantée, se trouve aussi sur un album qui est dans le palmarès local de Choc, album qui porte le titre suivant, Tom ou la trajectoire des Perséides, de l'auteur-compositeur-interprète Alphonse Bisaillon, qui se définit lui-même comme, attention, un monstre, une diva, un bébé qui gazouille, un gorille qui joue avec une branche, un nouveau iPhone ou encore un parasite cérébral qui se tapit au bout de vos langues pour survivre.
Oh.
Quand même. La pièce qu'on entendait, c'était Dubstep et le fantôme secret de Saint-Hyacinthe. Plusieurs dates de spectacles à venir un peu partout au Québec, dont le 10 avril au Ministère à Montréal. Avant de redonner le micro à Marie-Ève, je vous parle d'un article de l'agence France Presse paru début mars sur la résistance anti-guerre en Israël, où la lutte contre l'attaque illégale sur l'Iran, il y aurait 7% d'Israéliens qui s'opposent à cette guerre. Il y a une partie de ces gens, le manifestent, pas juste dans les réseaux sociaux, mais dans la rue, pancarte à la main et slogan dans les porte-voix, pour tenter d'infléchir cette opinion publique qui est quand même très molonautiquement derrière toutes les guerres que mène leur gouvernement. Il faut dire qu'au niveau politique, les députés de l'opposition au Parlement, il n'y a aucune question difficile qui est posée sur les guerres netanyahesques. Et dans les médias, aucune forme d'analyse critique ou de remise en question. On est vraiment dans un concert parfaitement millimétré d'appui au gouvernement dans ses campagnes militaires. Je serais curieux d'ailleurs de voir qui contrôle les médias en Israël. Je ne sais pas s'il y a une unique tête dirigeante au sommet d'un grand empire. Ce serait un sujet intéressant à explorer pour une autre chronique. Donc, les fins de semaine, dans la plupart des grandes villes du pays, il y a des rassemblements de quelques dizaines de personnes, généralement des militants de gauche, qui ont aussi manifesté contre les agressions sur Gaza, sur le Liban, la Jordanie, la Syrie, le Yémen, etc. Donc, des petits rassemblements qui se forment devant les lieux les plus achalandés de la ville, des villes où se trouvent parfois des objecteurs de conscience qui ont refusé le service militaire obligatoire, raison pour laquelle ils ont d'ailleurs fait de la prison. Mais bref, la police intervient toujours très rapidement et assez violemment pour disperser ces rassemblements. Pourtant, tout ce qui est plus pacifique, les manifestants essaient de faire valoir que toutes ces guerres qui se superposent carrément les unes aux autres actuellement ont très peu à voir avec le bien-être ou la sécurité de la population israélienne et sont motivées par les intérêts économiques et géopolitiques de la Knesset ou de Washington. Et vous en doutez bien que ces manifestants se font copieusement l'objet d'insultes jusqu'aux menaces de mort, aux pertes d'emploi et même rejetés par leur famille parce que considérés comme des traîtres à la nation.
Mm-hmm.
Donc, article fort intéressant, le titre « En Israël, les opposants à la guerre à contre-courant de l'opinion publique ». Donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Marie-Ève, on revient ici chez nous, mais on continue sur cette question israélo-palestinienne.
Oui, parce que, ben, tu sais, en lien avec l'armement, c'est qu'une des obsessions de Mark Carney pour à la fois revigorer l'économie canadienne et atteindre les objectifs de l'OTAN pour les dépenses en défense, ben ce sont les investissements dans les infrastructures militaires. Puis ben quand on regarde pas à dépenses comme on dit, hein, ben on n'est pas regardant non plus quant à savoir où vont les armes qu'on fabrique et à quoi elles servent.
Effectivement.
Et on en a eu un autre bel exemple au début du mois de mars à Ottawa. Les députés de la Chambre ont en effet rejeté un projet de loi qui visait à colmater une brèche dans le régime d'exportation d'armes du Canada. Il s'agissait d'un projet de loi dit d'initiative parlementaire déposé en septembre dernier par la députée néo-démocrate Jenny Kwan en réaction aux tentatives de Washington d'acheter des armes canadiennes pour Israël malgré l'embargo canadien sur l'exportation de certaines armes vers ce pays-là.
Ouais, mais je pense vu que ça passe par les États-Unis, on profite un peu pour légalement contourner les obligations légales.
C'est ça le but de cette c'est pour justement empêcher ça qu'il y avait ce projet de loi. Les députés ont rejeté donc le projet de loi par 295 voix contre 22 seulement. Donc, ici aussi, il y a comme un bloc monolithique qui se range derrière le gouvernement Carney. Le texte est donc caduc et ne sera pas soumis à un comité d'études. Le gouvernement soutient principalement que le Canada possède déjà des lois strictes en matière de contrôle des armements et que les modifications proposées nuiraient au secteur de la défense et à l'emploi au Canada. Je cite la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand. Il est irresponsable de proposer un tel projet de loi.
Ben oui.
Les modifications proposées anéantiraient l'industrie de la défense canadienne, affaibliraient le rôle du Canada au sein de l'OTAN et compromettraient les capacités de nos forces armées canadiennes, rien de moins.
Ben oui, puis ça nous empêcherait d'atteindre nos objectifs de 5 % du PIB maintenant.
Ben, c'était supposé être 2, puis là, on a atteint 3.
OK.
Fait que pourquoi pas avoir 5%. Les conservateurs, eux autres, ont repris ces arguments-là tout en insistant sur le fait qu'Ottawa doit soutenir ses alliés, alors que le Bloc québécois, lui, a averti que le projet de loi risquerait d'inciter les États-Unis à se procurer les mêmes armes auprès d'autres pays de toute façon. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas nous?
Ben oui.
Salma Zaïd, une des 15 députés libéraux à avoir voté en faveur du projet de loi, a rejeté la plupart des arguments de son parti. Je la cite, « Les emplois ne sont pas menacés. Ce qui est en jeu, c'est notre autorité morale et l'image du Canada à l'échelle mondiale en tant qu'exportateur responsable. » Elle a aussi fait un parallèle avec le contrat conclu par ICE aux États-Unis pour l'achat de véhicules tactiques blindés auprès d'une entreprise canadienne, ce qui est quand même un bon parallèle. Je rappelle qu'au début 2024, le gouvernement canadien avait restreint ses exportations d'armes vers Israël parce qu'il s'inquiétait de la perspective d'une violation du droit international du pays suite à ses bombardements sur Gaza. Les libéraux avaient initialement déclaré que cette interdiction-là s'appliquait à toutes les armes létales pour ensuite préciser que les ventes d'armes à Israël resteraient autorisées si ces armes-là étaient utilisées pour la défense des civils. Plus tard dans l'année, le gouvernement canadien a été critiqué lorsque les États-Unis ont annoncé leur intention d'envoyer des munitions fabriquées au Québec à Israël, une vente qui, selon Ottawa, a jamais eu lieu. Mais donc, pour toutes ces raisons-là, des voix critiques réclament rien de moins qu'un embargo total sur les armes à destination d'Israël, puis accusent Ottawa d'être incapable de tenir sa promesse d'empêcher l'entrée d'armes canadiennes à Gaza. Plus largement, plusieurs affirment que ces mêmes failles juridiques-là permettent aussi l'utilisation d'armes canadiennes dans l'intervention armée de l'Arabie saoudite au Yémen, par exemple, puis dans la guerre civile sanglante au Soudan. Donc, ça sera pour une prochaine fois. C'est pas demain l'abeille qu'on va contrôler l'industrie de l'armement.
Tu sais, souvent, on entend les gens dire « Ouais, le conflit, ça nous concerne pas, on devrait pas en parler ici », mais c'est parce qu'on est quand même directement complice avec... non seulement à cause des armes canadiennes qui réussissent à se rendre jusque là-bas, mais pour d'autres raisons aussi.
Oui, effectivement. Fait qu'écoute, Simon, si ça te dérange pas, on va prendre une petite pause musicale.
Oui, ton choix, Marie-Ève,
oui,
cette fois-ci.
Oui, en compagnie de Black Eyes, qui sont de Washington, D.C. avec
c'est de circonstance, ça tombe bien.
Oui, avec leur plus récent album qui est paru en octobre dernier. Si j'ai bien compris, ça faisait environ 20 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album complet. Ah. Et à la lecture des commentaires sur leur Bandcamp, leur nouvel opus intitulé « Hostile Design » était attendu de pied ferme par les fans. Et donc, on va écouter la pièce « Pestilence ». ».
penetration. Sovereign nations mistaken for colonies.
Let it
Black Eyes sur choc.ca. Maintenant, quelques brèves d'actualité internationale. Trois pays dont on parle peu. Je commence avec la Croatie qui a décidé de construire un centre d'accueil pour migrants près de sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine, frontière qui se trouve aussi à être un point d'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen. On se trouve au cœur de la route des Balkans, à peu près à mi-chemin entre la Turquie et l'Europe de l'Ouest. Le projet a généré des levées de boucliers des deux côtés de la frontière. On prétend que la présence de ce centre d'accueil va ruiner le tourisme dans la région.
Rien dans moi.
Oui, ruiner. Là, ça va être en ruine. Effectivement, on trouve des parcs nationaux dans ce coin-là. Mais pourtant, un nouveau centre d'accueil n'attirerait pas davantage de migrants dans une région qui est de toute façon déjà traversée par un itinéraire migratoire bien établi. Il permettrait même de mieux encadrer les chemins empruntés par les migrants, éviter la dispersion ou plus simplement offrir un peu de dignité, de chaleur, de soins pour quelques nuits, et même procéder à des enregistrements, soit des demandes d'asile ou le plus souvent délivrer des permis temporaires de circuler.
Mm-hmm.
Mais bon, les préjugés sont tenaces. Espérons quand même que le centre soit opérationnel bientôt, puisque la Croatie, qui est une étape incontournable de la route des Balkans, ne dispose que de deux centres d'accueil de migrants pour moins de 1000 lits, et ils sont jugés obsolètes et miteux. Il y a un seul centre près de la frontière avec la Bosnie.
Okay.
Pour contourner la Croatie, la seule option, c'est la Hongrie de Viktor Orban.
C'est attirant.
Il faut l'éviter. La Hongrie, elle est impitoyable avec les personnes migrantes. Viktor Orban ne t'invite pas à souper quand tu es un migrant. De là, l'importance d'assurer la sécurité des personnes migrantes en Croatie, d'autant plus que les réseaux de passeurs se font de plus en plus d'argent en offrant non seulement le transport, mais aussi de plus en plus l'hébergement tout au long de leur parcours clandestin à des tarifs prohibitifs, sans pour autant que la sécurité des migrants soit assurée. J'avais dit que ce serait bref, je m'en vais donc de ce pas dans les pays de la péninsule arabique qui subissent depuis quelques semaines les bombardements iraniens où se trouvent encore aujourd'hui, malgré la guerre, des milliers de travailleurs migrants subsahariens. On estime leur nombre à plus de 700 000 seulement en Arabie Saoudite.
C'est énorme.
Énorme. J'ai pas le total pour la péninsule. Je sais pas si Émirats Arabes Unis, pas Yémen évidemment, mais Qatar, on doit dépasser le million, je présume. Donc, certains de ces travailleurs subsahariens choisissent librement de rester parce que malgré les missiles, ils jugent qu'elles se demeurent quand même plus sécuritaires que dans leur pays d'origine. Mais plusieurs n'ont tout simplement pas le choix en raison des termes de leur permis de travail, des permis qui sont généralement fermés, la fuite signifiant alors l'impossibilité de revenir travailler par la suite, ou encore en raison des programmes de parrainage auxquels ils sont liés, ou même du fait que les employeurs détiennent souvent leur passeport.
C'est ça.
Faut ajouter qu'à peu près aucun gouvernement subsaharien n'a organisé de vol de retour pour leurs ressortissants qui n'ont généralement pas les moyens de retourner à la maison. Et voilà, je termine ce mini-tour du monde au Népal suite au soulèvement de la génération Z de l'année dernière. Le Népal était des nombreux pays qui s'étaient soulevés.
Ben oui, il n'y a pas eu des élections, genre?
Oui, c'est ça mon sujet. Donc le pouvoir avait été chassé, des élections ont été tenues il y a quelques semaines et on se retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau premier ministre assermenté vendredi passé. C'est un rappeur dont le surnom est Baleine, B-A-L-E-N, là, pas une baleine, comme on dit à Québec, de son vrai nom, Balendra Shah. Donc, victoire incontestable, 182 sièges sur 275, donc une majorité assez confortable. Monsieur Shah, c'est le candidat de la jeunesse. Il était l'un des porte-voix les plus visibles de l'insurrection de septembre dernier, dont la répression est directement responsable de la mort de 77 jeunes Népalais. Les partis traditionnels qui se partageaient le pouvoir depuis des décennies sont plutôt mal en point suite à ce scrutin. Forcément, il y aura de la déception. Les forces de l'inertie vont peser de tout leur poids pour empêcher la mise en œuvre des réformes promises, mais pour l'instant, la jeunesse népalaise s'accroche à l'espoir porté par MC Balen pour plus de droits, de liberté, de démocratie, des emplois et un meilleur pouvoir d'achat et surtout moins de corruption.
C'est tout son programme, ça.
Oui, ben okay. Oui. Ben, en fait, lui, son programme porte un peu les revendications qui étaient exprimées par la jeunesse.
Oui.
Donc, il y a vraiment comme... Oui. C'est issu directement. Et je vais terminer là-dessus. L'une des questions qu'on se pose actuellement à Katmandou, mais où le gouvernement va-t-il siéger? Puisque le Parlement a été incendié lors de l'insurrection. Oh. On se rappelle des images assez spectaculaires. Et sa reconstruction n'est toujours pas terminée. Donc, j'ai dû consulter le Katmandu Times pour avoir une mise à jour. Là, je suis sérieux. Donc, les travaux parlementaires doivent commencer très bientôt selon le calendrier législatif népalais et aucune solution temporaire n'a été trouvée.
OK.
Est-ce que l'opposition fâchée des résultats nuit à la reconstruction pour empêcher la reprise des travaux parlementaires? Ça fait un peu complotiste, mais c'est ce que pensent certaines personnes. Alors, je vous ferai peut-être une petite mise à jour sur cet enjeu dans les prochaines semaines. Et parlant d'insurrection, j'entends-tu quelque chose au loin? Hein? Et non, la jeunesse népalaise n'est pas entrée en studio. Donc, je vous parle, c'est l'agenda antiraciste, donc sortez vos papiers, vos crayons. Je vous parle premièrement d'une pétition d'Amnesty International que vous pouvez signer en ligne et dont l'énoncé va comme suit. Garda World doit se retirer des contrats avec ICE. Donc, on sait notamment que Garda opère dans le camp de concentration Alligator Alcatraz en Floride, ce qui est en contravention directe de son obligation légale selon le droit international de s'assurer que ses activités et les contrats qu'elle signe respectent les droits humains. Mais bon, on a vu tantôt, le gouvernement fédéral a de la misère lui-même à respecter ses propres lois, alors on ne s'attend pas à ce qu'une compagnie privée le fasse.
Non.
On sait qu'aux États-Unis, Garda a participé à des opérations de déportation de milliers de migrants. Les trois principales revendications dans les pétitions sont les suivantes. Que Garda mette fin immédiatement à tous ses partenariats avec Washington. Que Garda mette en place une politique garantissant que l'entreprise ne soit pas complice de violations des droits humains dans la fourniture de ses services. Et finalement, qu'elle assure une transparence totale sur ses activités aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donc, je pense que c'est beaucoup demandé pour une entreprise comme Garda. Et c'est pas dans la pétition, mais on sait que Garda bénéficie d'aide financière du gouvernement du Québec. Donc, je pense que c'est un élément supplémentaire à dénoncer, ce qu'ont pas manqué de souligner les manifestants devant le siège de Garda à Montréal le 13 février dernier. Manifestation qui avait quand même brassé pas mal. Bref, pour signer cette pétition... Ah oui, je disais, ben oui, aujourd'hui, je lisais qu'on apprenait que Garda avait eu un nouveau contrat de hauteur d'un milliard à peu près.
Oui, pour, je pensais, assurer la sécurité dans un centre de détention, ça se peut-tu?
C'est relié aux questions migratoires aux États-Unis, je pense que c'est avec ICE.
Oui, il me semble que c'est encore avec ICE, puis il me semble que c'est dans un centre de détention.
Donc, raison de plus pour aller signer cette pétition qui se trouve sur amnesty.ca. Maintenant, je parle d'une bande dessinée qui a été lancée il y a quelques jours dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme à la librairie Le Guélion. Le titre de cette bande dessinée, Héritage, au pluriel avec un S, et c'est une œuvre issue du projet pilote Comprendre les oppressions et les violences envers les femmes vietnamiennes migrantes et descendantes de migrantes. Dans la BD, on suit le parcours de May, le personnage fictif d'une femme dont la famille faisait partie des Boat People des années 80. On y aborde toutes sortes de stéréotypes, comme ceux de la femme asiatique soumise, exotique, disponible, travaillante et discrète. C'est le résultat de témoignages recueillis durant 18 ans. Donc,
quand même,
un super travail de longue haleine au Québec et en France par Sophie Amisultan, professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Elle a co-signé cette bande dessinée avec Sandra Desmazières, une auteure et cinéaste franco-vietnamienne, ainsi qu'avec la professeure Roxane Caron et la doctorante Julie Quinn-Nitran, également de l'École de travail social de l'UDM. Je rappelle le titre, Héritage avec un S, que vous trouverez dans la plupart des bibliothèques, c'est sûrement déjà disponible et dans les librairies indépendantes de quartier. Ben, permets un aparté dans cet agenda. Je sais que c'est pas du tout une nouveauté, ça date d'il y a quelques années, mais je viens de terminer les 3 tomes de l'Odyssée d'Achim de l'auteur Fabien Toulmé aux éditions Delcourt. C'est l'une des œuvres, selon moi, toutes disciplines confondues, en tout cas moi, qui m'a le mieux raconté un parcours migratoire entre le Proche-Orient et l'Europe. Dans ce cas-ci, on suit Achim et son très jeune enfant entre Damas et 3 ans plus tard, Aix-en-Provence, en passant par la Turquie, la Grèce, puis la route des Balkans, la Hongrie. Achim est un nom fictif, mais l'auteur raconte l'histoire bien réelle d'un jeune Syrien qu'il a interviewé pendant plus d'un an. Bref, je recommande très fortement cette bande dessinée, l'Odyssée d'Achim. Je termine l'agenda avec un film qui prend l'affiche demain. Voir, juger, agir, l'histoire de la JOC, J-O-C, JOC, c'est les jeunesses ou la jeunesse ouvrière catholique, un mouvement ouvrier ancré dans les quartiers populaires du Québec depuis les années 30. Je vous lis un extrait de la description officielle du documentaire. On retrace un siècle d'engagement social porté par la jeunesse ouvrière en quête de justice et de solidarité. Des sous-sols d'église aux luttes féministes et syndicales, ce documentaire revient sur l'impact durable de la jeunesse ouvrière catholique et son rôle déterminant dans les bouleversements de la Révolution tranquille. Le film de 70 minutes a été réalisé par Annie Deniel. Il sera projeté à Montréal, au cinéma Beaubien, au cinéma public et à la Cinémathèque québécoise du 3 au 9 avril. Même date à Québec, au cinéma Le Clap, avant de partir en tournée dans plusieurs villes québécoises. Toutes les infos sont sur funambulemedia.org.
Petite anecdote personnelle, mon grand-père paternel était dans la JOC.
Donc, ton grand-père paternel a contribué à la Révolution tranquille qu'on est en train de, dont on est en train de démanteler l'héritage actuellement.
Exactement.
Donc, salut à ton grand-père. Son prénom, c'est quoi?
André.
Salut, André. Donc, voilà, c'est déjà terminé pour cet épisode du 2 avril 2026. Je vous rappelle que vous pouvez nous entendre tous les deux jeudis à 18h30 en direct des studios de Choc ou en rattrapage dans choc.ca. Notre site web, c'est apatridesanonymes.info. On a aussi une page FB à laquelle vous pouvez vous abonner, surtout pour consulter des pages d'événements, lancements, manifestations, etc. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions, commentaires, idées d'entrevue à l'adresse apatridesanonymes@resist.ca. Et pour nos amis de l'île de Vancouver, on est sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Marie-Ève, on se quitte avec ton deuxième choix musical.
Oui, du jazz.
Du jazz. Ben oui, ça termine toujours bien la semaine. Donc, c'est le Atlantis Jazz Ensemble. On va écouter
que
la...
je connaissais pas, hein?
Ah,
que je connaissais pas du tout. C'est découverte grâce au palmarès de Choc.
C'est dans le palmarès, c'est Canadien hors Québec, donc c'est dans le palmarès international de Choc.
J'ai oublié en quelle position, là, mais...
Ben, c'est entre 1 et 40, forcément, parce qu'il y a 40 positions dans ce palmarès. On va écouter la pièce Damoclès, c'est un ensemble de jazz ontarien. Donc, merci beaucoup, Marie-Ève.
Merci à toi, Simon, pour cette
plaisir.
Animation en duo, encore.
Encore une fois, très content de l'avoir fait avec toi. On se retrouve, on devrait se retrouver le jeudi 16 avril, 18h30, pour qu'ils nous synthonisent en direct, évidemment. Merci d'ailleurs à tout le monde qui écoute les Apatrides Anonymes. Donc, on s'en va en musique avec Atlantis Jazz Ensemble et on vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous.
Bonne écoute.